J'ai été frappé dans le dos, dans les reins, et nous avons été jetés brutalement dans un car qui s'attenait avenue des Gobelins. Alors là, je suis arrivé dans le car, on m'a jeté à terre, et j'ai vu 35 gars dans un état absolument lamentable. Tous blessés à la tête, au visage, sanglants, par terre, et un groupe de flics dirigé par un d'entre eux, bon, qui était le meneur de jeu en quelque sorte, qui tapait régulièrement sur les gens les plus blessés. Ça a duré comme ça pendant longtemps, des gifles et des coups de matraque. C'était des flics de Paris. Ils avaient des matraques blanches couvertes de sang.
Paris sera toujours Paris, c'est bien connu, grâce à la beauté de ses filles et de ses avenues. On oublie pourtant un autre élément qui le rend coquet et qui fait de l'effet, car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe, 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 avec leurs bâtons blancs, leurs sifflets, leurs képis. Aïe, 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 aïe. Ils ont des costumes bleu marine très bien coupés, avec ceinturon et gants blancs pour les égayer. Les autos séduites s'arrêtent bien vite pour les admirer au passage clouté, car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe, 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 avec leurs bâtons blancs, leurs sifflets, leurs képis. Aïe, 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 aïe. Il faut les voir dans le soleil, en tenue d'été, cachés dans une petite guérite pour les abriter. Leur veston tout blanc est si engageant qu'on leur demanderait un demi s'il vous plaît, car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe, 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 car ils sont bien jolis les flics de mon pays.
Et ça a duré comme ça jusqu'à Beaujon. Un peu avant Beaujon, un brigadier est venu, a pris les matraques sanglantes et a sorti de nouvelles matraques propres.
Elle fait son devoir, la police. D'ailleurs, nous savons tous que nous payons ces gens-là pour nous taper dessus. Un garde mobile s'était lancé sur un couple déjà âgé qui longeait peureusement la vitrine de chez Dupont. Il hurlait d'un ton suraigu, « Il faut tous les tuer !» Et brandissant son mousqueton par le canon, comme un bûcheron sa cognée, l'a abattu avec une sauvagerie ignoble sur les reins de la femme qui est tombée sur le ventre en poussant un hurlement ininterrompu comme une bête gravement blessée. La plupart des CRS souriaient avec une haine indescriptible. Ils nous disaient « Vous nous avez appelés des SS, eh bien on va vous montrer comment se conduisent les SS. Vous avez descendu deux des nôtres, on va se venger. Et bientôt, on tirera sur vous comme nous l'avons fait lors de la répression contre les Arabes. 150 types nous avons descendus. Ça, vous ne l'avez pas su. Poussant des hurlements, comme je n'en avais jamais entendu, une dizaine de CRS déchaînés se ruèrent dans l'entrée, matraques et boucliers en main, en criant qu'ils allaient nous massacrer tous. J'ai entendu les hurlements de cette femme criant « Je suis enceinte » et se faisant matraquer, à grand renfort de « Tiens, salope, tu vas voir si t'es enceinte ».
Après cet intermède, l'heure a sonné. En lançant cette grève générale, la CGT et Georges Séguy donnent un coup de semonce au gouvernement, bien sûr, mais aussi un avertissement aux romantiques du quartier latin.
Dada ! Les camarades m'ont dit, laisse-toi pousser les cheveux pour l'action syndicale, on fait rien de mieux. Paraît même que maintenant, pour s'inscrire au parti, faut se mettre une chemise à fleurs et des bigoudis. Quand on veut faire connaître nos revendications, on ne manifeste plus place de la nation. On prend nos faucilles, nos marteaux et comme des hommes, on va danser le jerk ou Kremlin Palladium. Dada ! On se prépare déjà pour les législatives, le soir à la cellule, on lit plus de livres. On s'entraîne comme des dingues avec le délégué, à lever le poing en l'air en criant « Yeah, yeah !» Dada ! Pour défendre comme il faut la classe ouvrière, le plan quinquennal, c'est de la petite bière. Si Karl Marx a permis la révolution, c'est parce qu'il avait les cheveux longs. Dada ! Pour construire vraiment les lendemains meilleurs, camarades, mettons nos chemises à fleurs. Groupons-nous pour la lutte finale, car demain le beatnik sauvera le genre humain. Nier, nier! Et bonjour, d'Astvisfoy! N'est-ce pas la chaussure, Nandubert, d'Ostvin, un jour d'hiver?
Pendant toute cette période, on s'interrogera pour savoir si les syndicats veulent pousser leur avantage et aller jusqu'à renverser le régime. Pour la CGT et Georges Séguy, n'en est pas question, c'est l'affaire des partis politiques. Mais à la CFDT, on ira plus loin, en liant la revendication des étudiants, université autonome, à celle des ouvriers, autogestion et pouvoir ouvrier.
L'autogestion, c'est le refus de l'autoritarisme et une volonté profonde de démocratie dans l'entreprise.
Le patron demande la parole au nom de la liberté. C'est pas le patron qui commence la grève, c'est nous qu'il monte sur le mur comme tout le monde au nom de la démocratie. Il a écarté nos délégués, preuve qu'il ne reconnaît pas nos syndicats. Il n'a pas le droit, ça se fait pas au nom de la démocratie. Quand il y a des licenciements, on ne fait pas de vote à bulletin secret pour demander l'avis des gens. Au nom de la démocratie, ils sont fatigués en ce moment, versant leur anacompte. On verra bien ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées.
Les salaires sont augmentés d'une façon globale, générale, de 7% en juin, de 3% en octobre, sans préjudice des accords contractuels par entreprise ou industrie. Nous avons lutté pour obtenir le paiement des jours de grève.
Monsieur le délégué, vous avez une belle chemise blanche, vous êtes bien cravaté, parce que vous êtes élégant. Monsieur le délégué, ça fait bientôt plus de 20 ans que vous n'avez pas foutu les pieds dans le moindre atelier. Mes chers ouvriers, je suis élu démocratiquement et censé vous représenter auprès de la direction. Monsieur le délégué, il y en a marre de t'entendre causer. On est assez grand pour se débrouiller, assez fort pour se représenter. Mes chers ouvriers, mais pourquoi avez-vous débrayé? Voulez-vous une prime de vacances ou une augmentation de salaire? Monsieur le délégué, fais pas semblant de pas comprendre. Tu sais très bien ce qu'on veut faire. On veut faire la révolution. Mes chers ouvriers, mais vous êtes complètement cinglés. Jamais les patrons ne marcheront. Monsieur le délégué, y en a marre de t'entendre causer. On est assez grand pour se révolter et assez fort pour triompher. Vous êtes une bande de petits gauchistes, des maoïstes spontanéistes, des fascistes de toute obédience. Et la classe ouvrière vous renie. Monsieur le délégué, d'intérêt à débiner, sans sa tourne de cravate, on pourrait le resserrer. Nous sommes tous des délégués, pas besoin d'être représentés, assez grands pour se révolter et assez forts pour triompher. Nous sommes tous des délégués. Dès la reprise du travail, la réforme des structures de la trésorerie des entreprises ouvrières sera revalorisée.
Faut le faire.
Vendredi 24 mai, deux semaines après les barricades de la rue Gay-Lussac, le sang va encore couler dans les rues de Paris.
Je suis médecin, j'habite boulevard Saint-Michel. J'avais dû passer par-dessus la barricade qui se trouvait devant l'école normale supérieure, devant laquelle on jetait un véritable mur de grenades. La barricade flambait. Tous les jeunes gens et les jeunes filles qui se trouvaient là étaient plus ou moins gravement intoxiqués, présentaient des troubles de la respiration, des toux spasmodiques. Plusieurs avaient des vomissements, dont certains contenaient quelques filets sanglants. Ils présentaient un état de prostration nerveuse important.
Le CB ou CS, enfin en tout cas le produit qui s'appelle orthochlorobenzalmalonitril, n'avait jamais été utilisé en France, dans aucune circonstance, notamment évidemment la répression des manifestations. Dans les expériences qui ont été réalisées pour le tribunal, aussi bien chez les gros animaux que chez les petits animaux, nous avons trouvé d'importantes lésions, et je crois que ça, ce sont des données tout à fait inédites, je pense que nous sommes seuls en France à les avoir.
Je vais te dire une chose, s'il y a une révolution, les CRS et tout, ils sont tous perdus. Parce qu'on est équipés aussi, nous, comme eux.
Le pouvoir est au bout du fusil.
Et le fusil est au bout du corridor, dans le placard.
Faut faire quelque chose. Faut faire la révolution.
Des groupes d'étudiants révolutionnaires, ou ce que les syndicats appellent des éléments incontrôlables, firent alors leur apparition et opérèrent ce qu'on pourrait en langage militaire appeler leur jonction avec de jeunes ouvriers des usines. C'était déjà de jeunes ouvriers, rappelez-vous, qui provoquèrent à Cléon, il y a presque un mois, en occupant les lieux de travail, la marée des grèves qui en trois jours s'étendit sur la France. Maoïstes, trotskistes et autres, ils ne s'intéressent qu'indirectement aux revendications des ouvriers.
Je ne savais même pas que ça s'appelait un trotskiste. Enfin, ce que vous dites, là, je ne sais pas trop. Des courants trotskistes. Moi, je dis un va-et-vient, c'est tout.
Comment ?
Un va-et-vient, c'est tout.
Le dialogue, il faut le reconnaître, devient de ce fait impossible. Du reste, c'est un phénomène bien connu, auquel n'échappe aucun mouvement de ce genre dans des périodes comme celles que nous traversons. Il n'est point de gauchiste qui ne trouve plus gauchiste que lui. Si enragé soit-on, un voisin qui l'est davantage ne tarde pas à se révéler. Dans la course au maximalisme, on est toujours dépassé. C'est bien ce qui se produit. Hier, à la Sorbonne, quelques ultra-gauchistes, pour reprendre la formule de M. Valdec-Rochet, ont brisé avec l'UNEF, le SNESUP et même le mouvement du 22 mars, fondé par Daniel Cohn-Bendit, sous prétexte qu'ils étaient trop modérés. Allez savoir si ce sont eux, les dissidents, qui qui ont lancé les opérations de cette nuit. Bien qu'elle démontre ces opérations, l'existence d'une tactique et d'une organisation au plan des responsabilités, personne ne contrôle plus personne dans cet univers de la fureur déchaînée dont la Sorbonne est devenue à la fois le temple et le camp retranché. De la vieille université jaillissent aux appels à l'émeute des bandes d'étudiants qui se répandent à travers Paris, y sèment le désordre et finissent par se heurter aux forces de police qui les refoulent de barricade en barricade jusqu'à leur bastion où ils se reposent et pansent leurs plaies en attendant la prochaine sortie. Je sais que l'existence au cœur d'un quartier latin déchiré où les habitants vivent dans l'angoisse, je sais que l'existence d'une chaudière en ébullition pose au gouvernement un terrible problème. Faudra-t-il que les excès en engendrent d'autres ? Il n'est pas possible en tout cas, les étudiants doivent le comprendre, même les plus farouches d'entre eux. Il n'est pas possible que la situation actuelle se prolonge très longtemps, que la Sorbonne continue d'être une place forte et le quartier latin un champ de bataille. Les jeunes nihilistes qui entretiennent leur exaltation nocturne en incendiant des voitures, en brisant les panneaux électoraux et en dépavant les rues, seraient-ils, comme certains le disent, prêts à des sacrifices insensés au milieu de l'hostilité de toute une population ? Les quelques milliers d'étudiants qui occupent la Sorbonne ou qui gravitent autour d'elle refusent toute négociation, tout contact, toute relation, rien qui puisse, de près ou de loin, leur apparaître comme une concession envers une société qu'ils veulent détruire. La cause que défendent les étudiants et leurs camarades ouvriers, et qu'ils ont passionnément embrassée, mérite en tout cas mieux que des désordres pitoyables. L'heure est venue de dire « il faut savoir terminer une émeute ». J'ajouterai pour conclure que cette révolution, amorcée en mai, car je crois qu'elle n'est qu'amorcée, se développe pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis 1789, non pour la conquête de l'égalité, mais pour la conquête de la liberté. Bien entendu, cela signifie l'entrée dans l'inconnu. Et je me demande, si plus que les barricades de Paris, plus que la grande paralysie des grèves, ce n'est pas le vertige qui s'est soudain emparé de la nation devant cet inconnu qui l'a secoué du grand frisson de la peur.
Ça, c'était pour les extrêmes. Mais juste à côté, à l'Élysée Montmartre, Mitterrand et Mendès France traitent une alliance politique tout en mangeant des pépites.
Bon, alors c'est d'accord, Mendès, on s'associe, parlons franc. En fait, 50-50, mais je serai votre bras droit, bien que je sois de gauche.
D'accord, mais dites-moi, Valdecrochet nous a aidés quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ?
Oh, mais faut être réglo, faut lui donner sa commission. On lui file 10% comme un impresario, c'est le tarif syndical. De toute façon, c'est ce qu'il va exiger.
Mais dites-moi, Mitterrand, les étudiants aussi nous ont aidés. Ils ont jeté quelques pavés dans la mare, faut faire quelque chose pour eux.
Ah oui, on leur donnera quelque chose.
Comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS. Ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent.
Thank you.
Il est 21h15 et un pompier actuellement monte le long de la rampe de la croix et est actuellement 2 mètres du drapeau rouge de la Sorbonne. C'est 8h. Et il l'a arraché, il est exactement 21h16. Quelques cris dans la foule. Les forces de police étant très importantes, pas actuellement de réaction. À vous.
Quand ça ne serait que le nettoyage de la Sorbonne, on n'en est pas sorti, hein, parce que il paraît que là-bas, alors là, il y avait de tout. Les rats commençaient à venir, bien entendu. D'ailleurs, ils sont sortis de là, je vais vous dire la vérité, parce qu'ils se grattaient.
L'épilogue est tout proche. Mercredi 29 mai, c'est le grand coup de théâtre.
Ici l'Élysée. À 11h24, en effet, j'avais vu partir, sortir la grille du coq de l'Élysée, 2 voitures. Dans la première, le service de sécurité. Dans la deuxième, assis à l'arrière, le général de Gaulle et madame de Gaulle.
Alors, on commence sérieusement à penser, à dire, à écrire... De Gaulle s'en va. De Gaulle revient à l'Élysée. Il déjeune seul avant de révéler à Georges Pompidou ce qu'il va annoncer aux Français dans l'après-midi.
Oui, j'ai fait le déplacement. Je ne fais qu'une apparition. Quel tuy-bui ce soir!
Bravo, mon général, on vous retrouve enfin!
C'est sans doute grâce à ce rendez-vous mystérieux. Serait-ce indiscret de savoir où vous étiez?
Oh oui, mon général!
Non, 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 devinez!
On ne sait pas!
C'est difficile, mon général!
Alors, Langauchard!
Oui!
Allons, voyons, c'est simple. Un rendez-vous mystérieux. De 5 à 7. En dehors de Paris. Et qui m'a fait retrouver mes 20 ans.
Ah oui!
Bonjour madame, bonjour bébé, bonjour monsieur le curé, salut les anciens. Vous réclamiez De Gaulle, la voici. Il y a des tas de gens qui pissent le vinaigre, mais moi je vous dis que les choses ne vont pas si mal. Que voulez-vous que j'y fasse ? Je ne suis pas le mandataire des champignons. Les meilleurs des champignons ne seront pas contents de moi. Au-dessus des champignons, il y a la France. Vive la France ! Il n'est pas facile de faire en sorte que les Français marchent ensemble sur la même route, en chantant la même chanson.
En 4 minutes et 30 secondes, la situation s'est complètement retournée. Le parti du silence va se réveiller et descendre à son tour dans la rue. Les députés gaullistes sortent leurs écharpes tricolores. Ils n'ont qu'un pas à faire pour rejoindre la place de la Concorde, où la foule va manifester pour la première fois pour De Gaulle. Ils seront ce soir-là des centaines de milliers, 1 million même. Après les barricades, après la kermesse rouge, c'est la soirée tricolore.
de ce défilé, vous savez, le défilé que nous avons eu de l'Arc de Triomphe à la Concorde. Mais je ne sais pas si vous avez bien regardé le coup. Aux films, aux actualités, ouais. Vous savez, il y en avait qui montaient d'un côté, qui redescendaient de l'autre, et puis qui revenaient. Il y avait ce pauvre père Mauriac, lui, il n'a pas suivi le défilé, on l'a porté, il était à la pointe. Il y a le petit Malraux, pauvre Pépé. C'est pas le mauvais mec, comme disait l'empereur, c'est pas une mouche, il peut pas faire au plafond. Alors, on lui a fait écrire ses mémoires au moment où il n'en a plus.
Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France!
Mon général, quel malheur, vous n'êtes plus à la hauteur. En 10 ans, vous avez perdu pas mal d'électeurs.
Oui, je sais, je perds tout ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon.
Mais quand la CGT et le Parti communiste font savoir qu'ils sont prêts aux élections, on sent bien que tout est joué, la page est tournée.
Revoir cela, pour la grandeur de la France, pour votre bonheur et celui de vos enfants, votez, je vous le demande. Vous refusez le désordre, la confusion, l'instabilité, vous choisissez le progrès, l'indépendance et la paix.
Résolution, je ne me retirerai pas. D'ailleurs, je ne me suis jamais retiré, sauf une fois. Yvonne me l'a toujours reproché, d'ailleurs. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Ouais.
Des files interminables de voitures littéralement coagulées, un inextricable enchevêtrement de véhicules. Sur tout cela montait un nuage de gaz brûlé et le tintamarre des avertisseurs aboyant leur rage impuissante. L'essence étant redevenue libre, la circulation cessait de l'être.
C'est la dernière image de mai 68. Dans les premiers jours de juin, la vie va renaître, ce sera long, ce sera très long et le sang va encore couler. La révolution de mai 68 aura ses premiers morts en juin, un lycéen noyé près de Flins et 2 ouvriers tués chez Peugeot. Sont-ils morts trop tard pour être les martyrs d'une révolution manquée ou trop tôt pour exalter une révolution réussie? À moins évidemment que les Français de 68 n'aient pas voulu de révolution du tout. Ils ont vu évacuer la Sorbonne et l'Odéon, ils ont assisté à la reprise du travail dans les usines, ils ont été appelés à voter à la fin du mois de juin. Et puis ils sont partis en vacances, avec le sentiment un peu déconcertant que rien ne serait plus jamais en France, tout à fait comme avant ce mai 68.
Papillon, je suis pour les coutumes. mâts aux urnes moins j'irons. Je vote, car je suis un faux, et tous les vos votes, gloire au je m'en vais poser, triste état si turne, mon petit papier. Je vote, car je suis affreux. La liste des élus, qu'importe la liste, je l'aurai dans le cul. Je vote, car je suis sans et tout est.
Au bord de l'abîme, mais demain, nous ferons un grand pas en avant.